point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Henri Moisé, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des crises dans l'histoire. Première question, qu'est-ce que c'est qu'une crise ?
C'est à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'il s'agit le plus souvent d'un dérèglement. Dérèglement de l'économie, moment parfois de grande rupture ou de récession lente. En tout cas, c'est une période plus ou moins longue pendant laquelle les équilibres anciens sont détruits, où de grandes inquiétudes se manifestent et où parfois des conséquences douloureuses d'abord, mais parfois plus heureuses par les évolutions qui sont générées, interviennent. Alors, la crise aujourd'hui, mot qui est largement galvaudé, les crises ont toujours marqué l'histoire économique de nos pays. Contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas de développement harmonieux. Il y a des moments d'accélération, il y a des moments de régression, il y a des moments d'enrichissement, il y a des moments de paupérisation, si bien que les historiens ont progressivement défini la notion de cycle, ce qui montre bien que si, sur la longue durée de l'économie notamment, il y a progrès, il y a des phénomènes en dents de scie d'accélération ou de décélération. Alors, vous me disiez, qu'est-ce que la crise ? Je dirais, tout dépend des causes. Et quand on analyse, justement, sur la longue période, les explications à toutes les crises repérables, on parle de crise conjoncturelle, de crise structurelle. On parle de crise d'adaptation, de crise de reconversion. On parle de crise de confiance, on parle de crise d'accumulation, les marxistes notamment. Pour dire qu'il n'y a pas une forme de crise, il y a des crises avec des formes multiples, avec des explications multiples et aux conséquences elles-mêmes parfois très variées. D'où justement l'importance de situer la crise actuelle dans le long cursus, évidemment, de toutes ces crises diverses et variées qui ont marqué notre histoire depuis, je dirais, l'Ancien Régime.
Extrait de registre de la paroisse de Brousse. Le septième jour du mois de janvier 1709, survint un vent de bise de froid comme jamais a été. Deux jours après, continuant le même froid, poussé du même vent, tomba une si grande quantité de neige qu'il y en avait quatre pans proches la rivière du Tarn. Jugée des autres endroits plus élevés, cette neige dura, sans se fondre, environ trois semaines, avec telle rigueur qu'on avait peine à couper le pain, à avoir le vin des barriques. Le Tarn glaça d'une telle force qu'on passait la rivière sur la glace. Cette rigueur d'hiver causa la perte presque totale des fruits de la terre. Il n'y eut pas la moitié du grain des autres années, point de vin. Les pruniers, cerisiers domestiques, figuiers, amandiers ne portèrent pas, comme aussi les noyers qui moururent tous avec la plus grande partie des châtaigniers. On vendait le blé 22 livres le sac, la pipe de vin 80 livres. Au mois de juillet et août, on ne trouvait du blé avec l'argent à la main. La cherté du blé dura jusqu'au milieu de juillet 1710, à cause du temps qui n'était pas propice pour couper les blés. Pendant un an, il y eut des maladies fréquentes dans tout le pays. Le mal chaud et le mal pourpre étaient fort en usage. Une grande mortalité, soit pauvre, soit riche. La paroisse de Brousse et de Saint-Martin, composée pour lors de 500 personnes, sont mortes environ 50. Après que le pourpre eut fini, la dysenterie fut en vogue. Le 27 du mois de septembre de la même année 1709, le Tarn grossit d'une telle force que personne vivante ne l'a vu de la sorte. Si fortement la rivière croissait ensemble avec le Rance, ce déluge surprit grandement tous les habitants. Cela arriva tout d'un coup, comme il arrive d'ordinaire sur les 8 heures du soir, et surtout, cette impétuosité d'eau surprit les bateliers. Plusieurs habitants perdurent bien des choses. Donc c'est tiré du registre de la paroisse de Brousse.
Il est conservé aux archives départementales de l'Aveyron. Mais pourquoi ce texte sur le tout début du XVIIIe siècle? C'est parce qu'il traduit, me semble-t-il, la notion de crise d'Ancien Régime. La crise économique et son cortège de souffrances interviennent soit à la suite d'intempéries, mauvais, c'est le cas en 1709, gel, inondation, neige, soit à la suite d'une guerre qui déséquilibre le fragile équilibre dit des subsistances. Il suffit, l'équilibre entre la nourriture et la population est toujours fragile, il suffit d'une mauvaise récolte, quelle qu'en soit la cause, pour que la population souffre beaucoup. Ce sont des crises alimentaires essentiellement, brutales, mais qui ont des effets économiques durables. Premier point, comme les denrées, notamment les céréales ou autres éléments vitaux, se raréfient, les prix augmentent. On achète moins et on ne vend pas, qui plus est. À partir de ces mauvaises récoltes et de cette mauvaise situation alimentaire, un dérèglement économique intervient. La paysannerie, les paysans, les ruraux qui sont les plus nombreux, achètent moins au commerce, à l'artisanat, d'où la crise s'étend. Et comme il y a du chômage, comme on mange mal, comme on souffre, la hausse des prix sur les denrées disponibles prive encore plus les possibilités alimentaires. Et de cette crise d'intempéries, on passe à une crise rurale, une crise commerciale, qui devient souvent urbaine. Autrement dit, les campagnes ne sont pas seules touchées, il y a une répercussion sur les villes voisines. Et quelquefois, si cette crise alimentaire, crise agricole, crise commerciale dure longtemps, comme la fiscalité, les fiscalités royales, ecclésiastiques et seigneuriales perdurent ou s'aggravent, eh bien on va jusqu'à une crise politique, c'est-à-dire une révolte, et ce qu'on appelait autrefois les émotions populaires. Et ça disparaît assez facilement si les bonnes récoltes reviennent à nouveau, au bout de 2 ans, un nouvel équilibre intervient. Par contre, ce qui va rester durablement, c'est la dégradation démographique. Car les personnes souffrant de malnutrition ou de sous-nutrition, plus exactement, sont vulnérables aux épidémies. Alors là, on parle du pourpre, ce sont des fièvres essentiellement, la dysenterie et quelquefois des épidémies plus graves comme la peste ou le choléra liés à l'eau mauvaise. Et on voit cela tout au long de l'Ancien Régime, jusque vers les années 1850-1880.
Alors après la crise d'Ancien Régime, il y a ce qu'on appelle les crises mixtes.
Oui, alors ce sont les crises qui caractérisent la période de 1750 à 1850. Ce siècle, ces 100 ans sont marqués par un progrès réel de l'industrie, des manufactures, du commerce. Le point de départ est souvent identique. Ce sont les intempéries, ce peut être une guerre. Mais la différence avec la précédente dite d'Ancien Régime, c'est que les effets sur les villes, donc sur le commerce, sur les manufactures ou les industries, sont plus importants. Ces effets sont toujours les mêmes, hein. Raréfaction des denrées alimentaires, donc hausse des prix, baisse des salaires, notamment dans les campagnes. Le chômage touche à ce moment-là les villes, mais durablement, et qui, évidemment, connaissent un taux de chômage d'autant plus fort que les manufactures et l'artisanat s'étaient amplement développés. Et que les populations urbaines sont de plus en plus grandes. Autrement dit, c'est une crise qui s'étend plus largement. Les effets, eh bien, on le voit notamment en 1788, qui est la première grande crise mixte. On est encore dans un royaume de France qui est rural, mais où les villes attirent déjà, où des industries, des manufactures se sont développées. Et cette crise économique, qui est latente depuis une décennie, est aggravée par la fiscalité royale, par les déficits budgétaires, par la guerre d'Amérique, à laquelle participe la France, la guerre d'indépendance des futurs États-Unis. Si bien qu'on a à la fois une crise économique dure et durable, une crise sociale profonde et une crise politique sans précédent. Pourquoi ? Tout simplement parce que la monarchie, la crise qui existe déjà sous Louis XV, perdure sous le règne du jeune roi Louis XVI, qui n'a pas la capacité d'imposer les réformes que susciterait une telle situation, en un mot, faire payer les riches. Je crois qu'on en retrouve là des langages assez nouveaux. Les privilégiés, c'est-à-dire les nobles, ne veulent en aucun cas participer au renflouement des caisses royales, du trésor, si bien, et cette crise politique qui vient se superposer à la crise économique, eh bien c'est le prémisse, ce sont les premiers éléments sur lesquels va se faire la Révolution française. Car pour trouver une solution à la crise, le roi accepte la convocation des États généraux, et ce sont les États généraux qui vont permettre à la bourgeoisie, une bourgeoisie réformiste, de devenir révolutionnaire.
Alors, autre crise mixte en 1848.
Oui, là nous sommes déjà dans une crise où l'Europe est plus industrialisée, mais où encore, malgré tout, le poids de la ruralité est fort. Alors, le point de départ est assez surprenant, puisque déjà depuis 1842, on sent des tensions dans les industries. La pression sur les salaires est forte, la misère ouvrière est durable. Sur ce vieux fond de misère prolétarienne, pour employer le terme du moment, s'ajoute une crise agricole qui est purement accidentelle. C'est la crise de la pomme de terre en Irlande qui va se doubler d'une autre crise des céréales à partir de 1947. Et c'est cette juxtaposition de difficultés industrielles et commerciales et sociales, de crise agricole accidentelle que se développe la crise de 1848, mais qui ne reste pas qu'économique. Bon, bien sûr, il y a la crise démographique qui se traduit dans la manifestation, je dirais, et l'émigration des Irlandais et de certains Britanniques vers les États-Unis, pays d'accueil. Mais il y a surtout la crise politique, qui en Europe va se traduire par une multitude de révolutions. Ce sont les révolutions de 1848 et qui, pour certains, génèrent un grand enthousiasme, un grand espoir, au point que l'on parle du printemps des peuples. Au demeurant, l'agitation ouvrière est très forte, les révolutions peuvent mettre à mal les régimes en place. Et pour la France, on a au moins cet exemple-là à retenir. 1848, c'est l'échec de la monarchie de juillet de Louis-Philippe. C'est l'espérance républicaine, la deuxième république qui s'instaure, de courte durée, puisque le président d'alors, un certain prince Louis-Napoléon, en tirera profit et deviendra Louis-Napoléon numéro 3. Enfin, Napoléon III.
Alors ensuite, à partir de 1850, nous avons ce qu'on appelle les crises modernes.
Oui, c'est du moins les historiens qui parlent de crises modernes. On est là véritablement dans un monde qui se rapproche du nôtre. La révolution industrielle, c'est-à-dire cette longue période de progrès qui commence et qui va se confirmer de décennie en décennie, s'accompagne aussi d'une révolution agricole, traduisons amélioration des productions, à la fois qualitativement et surtout quantitativement. On produit, on commerce aussi, d'énormes capacités de marchandises circulent déjà non seulement en Europe, mais à travers le monde, d'autant que les moyens de transport se modernisent. C'est le chemin de fer à partir de ces années-là. C'est aussi les grands moyens maritimes. On part, si le bateau à voile demeure, si la marine à voile demeure, on voit progressivement apparaître des navires avec la machine à vapeur et donc des capacités de poids et de longueur de voyage tout à fait remarquables. Ce sont donc tous ces progrès techniques qui laissent espérer un très bel avenir, d'autant que l'abondance énergétique et de mise, le charbon, qui reste l'énergie essentielle, est complété par les débuts de l'électricité, l'hydroélectricité, par le pétrole, et surtout par le fait que l'Europe, notamment, trouve des débouchés, ou croit trouver des débouchés, dans la conquête coloniale. Donc il y a une véritable période d'euphorie économique, mais cette euphorie va se parfois être remise en cause par différents accidents, par exemple des crashs boursiers, par des faillites bancaires, par une spéculation abusive. Oui, et il me semble retrouver là des expressions qui sont tout à fait contemporaines. Néanmoins, cette longue période de progrès ne doit pas faire oublier qu'il y a de grandes récession ou des ruptures brutales qu'il faut bien appeler crise.
La crise de 1873, donc.
Voilà. Et donc, dans cette longue période de progrès qui semble, et qui est une démarque du 19e siècle, la première grande crise, c'est celle de 1873. C'est un coup de tonnerre, car au moins pour les Français, on parlait de, je cite, la fête impériale. Cette période de Napoléon III qui fut marquée globalement par beaucoup de progrès. En fait, la crise accidentelle, brutale de 1873, ouvre une longue période de dépression. Autrement dit, ce n'est pas une crise brutale dans laquelle on sort au bout de quelques années, c'est une longue période qui va de récession, de difficultés, même s'il y a des progrès, qui va durer jusqu'en 1895. C'est plus de 20 ans, donc, pendant lesquels les pays industriels vont connaître des difficultés à la fois agricoles, des difficultés industrielles, des difficultés démographiques. Et forcément, dans cette longue période de remise en cause, de déséquilibre, eh bien, il y aura aussi des aspects plus politiques qui vont évidemment venir perturber. Et ce n'est pas le hasard si c'est pendant cette période de difficultés économiques larvées ou plus aggravé, que l'on voit en France, je prends l'exemple français pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, que l'on voit se développer l'antisémitisme. Et plus tard, l'affaire Dreyfus. Mais il y a l'antisémitisme larvé qui commence. Où l'on voit des tentatives de remise en cause du régime républicain, derrière ce qu'il faut bien appeler un aventurier politique, le général Boulanger. Ou que l'on voit encore se développer des remises en cause du régime démocratique républicain sous la forme d'un anti-parlementarisme violent, notamment.
Un exemple local des effets de cette crise avec le rapport préfectoral au ministre sur la situation économique de l'Aveyron en 1884. Il résulte de cet exposé, monsieur le ministre, que l'agriculture et l'industrie du département de l'Aveyron ont perdu de leur prospérité antérieure et qu'il existe des souffrances réelles dans les deux branches essentielles de la fortune nationale. Ces souffrances se trouvent encore accidentellement aggravées par une crise financière très intense, occasionnée par de nombreuses faillites, notamment par celle d'un agent de change de Rodez, prêteur aux petits propriétaires. Le crédit dont on avait largement profité, peut-être même abusé, depuis l'établissement de la succursale de la Banque de France, s'est resserré et il en est résulté une perturbation considérable dans la marche des transactions. Ces conditions économiques sont habilement exploitées par les partis hostiles. Ils en exagèrent la portée et en font remonter la cause au gouvernement afin de produire sur l'esprit de la population agricole et ouvrière du département, généralement peu instruite et excessivement soucieuse de ses intérêts, une impression défavorable dont ils espèrent profiter dans les élections pour faire voter contre les Républicains. Les mesures réclamées du gouvernement pour remédier à cet état de choses sont le relèvement des droits d'entrée sur le blé et sur les bestiaux étrangers, l'abaissement du prix de transport des bestiaux sur les voies ferrées, l'ouverture des travaux sur les deux lignes de chemin de fer en construction dans le département d'Albi au Vigan et de Rodez à Carmaux. Il faudrait, en outre, à mon avis, faciliter par quelques moyens les migrations en Algérie.
Oui, on peut sourire de voir un tel rapport préfectoral sur une situation économique départementale, celle de l'Aveyron. Mais c'est au demeurant très pertinent. Je crois qu'on a là une bonne description au niveau local, et non plus au niveau international, des effets de cette récession qui s'aggrave entre 1882 et 1886. C'est en effet le moment où une véritable déprime économique dans cette longue, une aggravation de la situation économique, une vraie déprime. Les travaux de chemin de fer s'étaient ralentis et on voit qu'en Aveyron, on demande la reprise des travaux, mais pour donner du travail aux chômeurs. On s'aperçoit aussi que dans une des causes de la crise serait, croit-on, la concurrence internationale, les blés américains, la viande argentine ou la laine d'Australie, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, on voit qu'on réclame du protectionnisme, donc d'augmenter les tarifs douaniers. En même temps, on voit que la spéculation bancaire et boursière est ressentie comme une cause de la crise. Et on voit très bien aussi, des entreprises financières sont citées, que ces faillites bancaires déstabilisent énormément l'investissement et l'activité économique. Alors, il est clair aussi qu'il y a eu quelques effets de cette longue période. Par exemple, le plan Freycinet, du nom du ministre de l'Intérieur, qui va lancer quelques grands travaux. On a vu aussi des mesures protectionnistes prises, les mesures dites du ministre Méline, qui tendent à faire et à protéger autant que faire se peut les intérêts agricoles. Mais on voit aussi qu'il y a une solution à l'extérieur où croit-on, c'est la conquête coloniale, où l'on va encore une fois rechercher dans des marchés extérieurs les colonies, évidemment, qui seront des domaines réservés et protégés, des solutions qui ne sont en fait que trompeuses et qui n'apporteront pas les espoirs ou qui ne satisferont pas les espoirs. En tout état de cause, cette crise de 1873 et la dépression qui en suivit jusqu'en 1895 va s'arrêter à partir du moment où les équilibres renaissent et où l'on aura l'impression d'une belle époque. Belle époque relative, puisque n'oublions pas que même si on parle de belle époque, entre 1895 et 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, les souffrances ouvrières sont réelles, les difficultés industriel existe. Prenons l'exemple de Millau en 1911 et des grèves qui en ont suivi. N'oublions pas aussi qu'une partie de ce qu'on appelle la belle époque et de la relative prospérité est liée à la course aux armements et non pas simplement à d'autres progrès industriels et pacifiques. Autrement dit, voilà qui permet de relativiser, je dirais, le concept de belle époque. La guerre intervenant en 14 modifie complètement les données, puisqu'une guerre crée une économie artificielle, que l'on appelle économie de guerre d'ailleurs, et qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on imagine habituellement.
Et après, donc, ce sera la crise de 29, mais avant, pour introduire cette crise, une chanson de La Balduc.
Amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi j'ai toujours le cœur gai et je continue à te lutter, d'attendre ta perle et tant d'être dans les pleurs, Après tout, on est pas mal dans la province de Québec. On mange à mon pain sec. Y'a pas d'ouvrage au Canada, y'en a ben moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certain de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossie, je me tape fond sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra, mon petit mari travaille pas, à force de me priver de manger, je laisse ta mort tatiner, ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter, c'est tant de tirli tant de tom, tédélili tant de tom, darom de tirli dédélom, darom de tirli dédélom. Me voilà mal à manger, j'ai des trous à m'essuyer. Mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la doublure tout décousue. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas nawaire. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai 5 vite de casser. Ma lumière est disconnectée, puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de venir m'achaler, ma liste n'apprend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi, je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter.
Ça va venir, découragez-vous pas, de La Balduc, qui était une compositrice des paroles et de la musique, une dame québécoise qui raconte donc avec humour la vie des petites gens pendant la crise de 29. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette crise de 29, monsieur Moisé ?
Oui, avant de passer à la description de la crise et de ses effets, puisque c'est une crise qui sert toujours de repère, hein, dans nos mémoires en tout cas. Bien, je crois qu'il faut tirer les leçons du conflit 14-18 et dire que à ceux qui pensent qu'une bonne guerre ferait du bien, eh bien celle de 14-18 a été des plus détestables. Car même en 18, l'économie ne redevient pas ce qu'elle était. On ne retrouve pas la belle époque. Les pays, même victorieux, ont souffert. Des destructions sont colossales, les souffrances vont perdurer, mais surtout chez nous, Français. Et l'équilibre du monde est totalement bouleversé. Il faut reconstruire l'Europe. Le poids des États-Unis s'est alourdi, et ce qui, évidemment, donne au dollar une place inégalée. Des pays vaincus comme l'Allemagne souffrent durablement et auront du mal à digérer à la fois leur défaite et les conséquences économiques et sociales. Et on vit dans beaucoup d'illusions. Notamment nous, Français, on croit que pour sortir le pays des difficultés qui sont les siennes, eh bien, il n'y aura qu'à faire payer le Bosch. Hein. Le Bosch paiera, dit-on, et on est persuadé que ça serait la solution. En fait, on est dans une période de grande incertitude monétaire, économique, commerciale, et ce qui n'arrange rien, diplomatique. Néanmoins, au bout de quelques années, à partir de 1924, les déséquilibres issus de la guerre sont, sinon totalement réglés, du moins atténués. L'Allemagne a beaucoup souffert, mais l'aide américaine, le plan DEFS, l'aide américaine permet à l'Europe de se reconstruire. Et c'est le début de ce que l'on a appelé la prospérité, que l'on croit tellement définitive qu'on fait un peu n'importe quoi, mais au demeurant. Il y a la production de masse, il y a le taylorisme et le fordisme, il y a les échanges, il y a la circulation des capitaux qui laissent espérer des lendemains qui chantent. Et puis ces lendemains qui chantent, justement, brutalement, sont interrompus en 1929. Alors que s'est-il passé ? Ben c'est une crise qui naît aux États-Unis du fait d'une crise boursière, d'une spéculation sans précédent. Mon propos ne permet pas d'approfondir parce que ça compliquerait, mais disons que l'on a vécu d'une manière, on a joué à la bourse d'une manière inconsidérée sans tenir compte des réalités économiques. Cette crise boursière aux États-Unis va devenir mondiale, d'abord européenne puis mondiale. Elle va toucher l'industrie et l'agriculture et bouleverse d'une manière considérable tout le fragile équilibre que l'on croyait avoir atteint. Et c'est la crise sociale qui en découle. Des millions de chômeurs, des milliers de faillites, un commerce mondial complètement anéanti ou perturbé, et des misères sans précédent. Je crois que si on fait référence à la crise de 1929, c'est bien par ce côté-là, par les souffrances que cela va entraîner. C'est tout un système capitaliste qui est, je dirais, à l'abandon. Les États-Unis et l'Europe étant particulièrement touchés, on en arrive à la crise politique. Alors évidemment, les gouvernements en place sont sanctionnés au fur et à mesure des élections. Aux États-Unis, par exemple, parce qu'on reproche aux républicains leur mauvaise gestion de la crise, c'est Roosevelt qui est élu et qui va lancer progressivement un train de réformes connu sous l'appellation de New Deal, nouvelle donne, nouvelle répartition des richesses. En fait, c'est une idée ô combien nouvelle d'État-providence qui va jouer le rôle de stimulant pour l'économie. Ailleurs, la crise a des effets simplement politiques, sans entraîner des bouleversements considérable. En France, c'est la sanction des gouvernements de droite et l'arrivée au pouvoir des partis dits de gauche, dans la logique de la fin du début des années 30. Le cartel des gauches, le deuxième cartel des gauches, et en 36, le Front populaire. En Allemagne, les conséquences seront autrement plus lourdes, car sur ce fond de crise sociale et de misère énorme, eh bien, des partis extrémistes vont évidemment tirer profit de la misère par démagogie, par populisme, promettre une reconstruction de l'économie et de la société, et c'est l'arrivée au pouvoir d'Hitler à partir de 1933 et du nazisme, avec toutes les conséquences que l'on sait, car parmi les choix d'Hitler, c'est le réarmement intensif et c'est le reconquête militaire qui ne dit pas encore son nom mais qui apparaîtra par la suite. Donc une crise sans précédent, mais surtout parce que les conséquences de cette crise sont essentiellement de préparer les pays bellicistes à une future guerre, d'entraîner un isolationnisme des pays qui auraient pu jouer un rôle, par exemple les États-Unis, alors que les États-Unis avaient joué un rôle moteur jusque dans les années 30, eh bien ils vont momentanément se replier sur eux-mêmes. Et même si Roosevelt ne partageait pas totalement l'isolationnisme, momentanément, il fait ce choix-là qu'il va évidemment renié en 1941, mais lorsque le Japon attaquera la puissance américaine. Au demeurant donc, vous voyez, on a là, avec la crise de 1929, à la fois l'aspect boursier, l'aspect industriel, l'aspect agricole, l'aspect social, et surtout les conséquences politiques qui en découlent, et avec, à terme, même si ce n'est pas la cause directe, la crise de 1929 n'étant pas la cause directe, mais à terme, c'est bien la conséquence de la Seconde Guerre mondiale.
Donc après la Seconde Guerre mondiale, on parle toujours des Trente Glorieuses.
Oui, et c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale terminée, là encore avec une économie qui fonctionne de manière totalement artificielle, l'objectif étant de gagner la guerre, tout est fait pour satisfaire les besoins des états-majors, donc peu importe le coût de la guerre, peu importe les souffrances, il suffit d'abord de gagner. Bon. Donc ce sont les États-Unis qui vont jouer le rôle d'arsenal des démocraties, notamment auprès du Royaume-Uni, de la France libre et de quelques autres pays. Ces 30 glorieuses sont marquées, comme le nom l'indique, par une reconstruction à la fois des pays ravagés, donc de l'Europe, par de grands progrès technologiques, par de nouveaux besoins qui seront satisfaits. Alors, c'est intéressant parce que il y a des difficultés. Mais en même temps, on est progressivement dans autre chose qu'on appelle la guerre froide. Et les 30 glorieuses ne peuvent se comprendre chez nous que si on fait intervenir l'aide américaine, mais qui n'est pas l'aide que les États-Unis ont accordée dans les années 20. C'est le plan Marshall en 1947, qui est certes l'aide que les États-Unis accordent à l'Europe occidentale pour sa reconstruction, mais c'est aussi un enjeu politique contre le bloc communiste naissant et surtout contre l'Union soviétique. Donc, ces 30 glorieuses, bien sûr, il n'en reste pas moins vrai que, malgré les difficultés, n'oublions pas qu'il y a une crise très dure en Europe en 1949, qu'on a déjà passablement oubliée, mais qui est réelle. Et donc, cette période est marquée par la reconstruction, par les progrès, par des difficultés aussi. Et là encore, quelle est la solution? C'est la guerre de Corée. Non pas, je ne dis pas que la guerre de Corée a été un moyen de mettre fin à la crise de 1949. Je dis que grâce à la guerre de Corée, une reprise économique dans nos pays a lieu, aussi curieux que cela paraisse. Et jusqu'en 1973, on a cru pouvoir profiter du progrès, profiter de cette production de masse, de cette société de consommation. Il est vrai aussi que le baby-boom est un stimulant pour notre pays, notamment pour l'Europe, mais pour la France en particulier. On a davantage de besoins, on a davantage de main-d'œuvre. Et le tout a été effectivement une sorte d'euphorie, dont ma génération en tout cas a été la principale bénéficiaire. Et brutalement, en 1973, ça s'interrompt.
Alors on parle toujours de la crise pétrolière, du pétrole ?
Oui. C'est la crise de 1973, je dis bien, mais qui n'est pas une crise comme les autres. C'est pas une crise de pénurie, ça n'est pas une crise financière. C'est une crise liée au pétrole qui devient un enjeu politique. Les pays arabes, grands producteurs de pétrole, vont utiliser ce qui fait leur force, le pétrole, contre Israël. C'est ça le point de départ. La difficulté, c'est qu'en augmentant massivement le prix du pétrole, ils vont déstabiliser nos propres économies occidentales, dont je rappelle, pour ne pas l'oublier plus tard, que notre prospérité des 30 glorieuse, reposer sur l'abondance énergétique, mais une énergie bon marché, dont le pétrole. Le baril de du pétrole qui valait 3 dollars, le baril c'est 100 et quelques litres, va quadrupler en quelques mois, va passer à 12 dollars. Le choc est terrible et se voilà comment on déstabilise les économies et qu'on entre dans la crise dite de 73. Là-dessus, l'instabilité politique du Proche et du Moyen-Orient va aggraver ce premier choc. Et en 79, deuxième choc pétrolier lié à l'affaire de l'Iran. Gros producteur, le Shah d'Iran, l'empereur d'Iran est chassé, et voilà qu'on vient relancer, alors que l'on pensait maîtriser mieux ce problème-là, on va relancer la crise. Et depuis 1973, on est toujours dans l'incertitude. Certes, il y a des moments où on parle moins de crise, de récession, de dépression, c'est vrai, mais il y a toujours des difficultés, par exemple en 1987. Alors que l'on croyait avoir, après quelques années de difficultés, trouvé des solutions, la spéculation boursière, des montages financiers hasardeux font éclater une nouvelle crise. La bulle spéculative de 87 explose et nous voilà repartis sur un déséquilibre, sur un désordre général, d'autant que le dollar ne peut plus jouer son rôle et depuis 73 n'est plus garanti par l'or. Donc c'est une monnaie qui est gérée par les États-Unis, puisque c'est sa monnaie, et qui évidemment est librement et abondamment distribué dans le monde, au point que l'on a tenté, nous, par rapport à la crise du dollar, qui vient se greffer sur le problème pétrolier, on va avoir l'idée d'une monnaie progressivement européenne. On y arrivera par étapes. Et cette nouvelle monnaie que l'on croyait source de stabilité est à nouveau, et je crois durablement, en difficulté.
Oui, donc la crise actuelle de 2008. Quel regard l'historien que vous êtes porte sur cette crise actuelle ?
Il est difficile de demander à un petit historien de tirer en tout cas des enseignements. D'abord, qu'est-ce qui ne fonctionne pas depuis maintenant, 1973, depuis la fin de la présidence Pompidou ? Des dernières années. Il est clair que depuis les années 70, les économies occidentales, et la France en particulier, se sont endettées. On a choisi, évidemment, de gonfler la dette publique, de vivre, disent certains, au-dessus des moyens. C'est un premier point. Deuxième fait, les déséquilibres mondiaux, dont on a beaucoup parlé pendant des années, se sont maintenus, sinon aggravés. Les pays riches d'un côté, les pays émergents, les pays pauvres. Là-dessus, désordre monétaire. Progressivement, les grands systèmes de régulation monétaire qui existaient, qui ont été mis à mal, parfois détruits et remplacés, n'ont pas su jouer le rôle régulateur auquel ils étaient appelés. C'est ainsi, par exemple, que Bretton Woods, les accords monétaires de 1944 et la primauté du dollar n'ont pas su être maintenus. Et on est arrivé à un dollar fluctuant, à des monnaies fluctuantes, à des monnaies qui se réévaluent, d'autres qui se dévaluent. Et dans ce concert-là, l'euro aujourd'hui est attaqué. Autre aspect, la spéculation boursière. Je crois que là, et bancaire. Je crois que là, quel que soit ce que je viens de dire, cette spéculation a eu un effet détonnant, particulièrement dévastateur. On a développé une économie fictive, irréelle, dans les bourses, où la spéculation s'est développée sans rien avoir de commun avec la réalité économique. Et on le voit bien quand, par exemple, des actions de certaines sociétés s'écroulent alors qu'elles font des bénéfices. Alors que normalement, la bourse se prétend être le reflet, justement, de la réalité économique. Et cette spéculation boursière et bancaire, totalement irrationnelle, était d'autant plus dangereuse que les États avaient pris l'habitude, depuis les années 70, de faire appel à du crédit bancaire, hors de leur banque centrale. Ces banques elles-mêmes, ces organismes financiers qui se livrant trop souvent à des spéculations irrationnelles, n'ont pas joué le rôle même qui était le leur d'aide à l'économie, d'investissement. D'investissement, si possible, durable. Et enfin, dernier aspect de la crise qui, depuis les années 73, me semble perdurer, ce sont les inégalités sociales. Et là, je crois que la crise actuelle ne fait que refléter ce qui est l'élément central sur le plan humain. Il y a, malgré la crise, des minorités qui s'enrichissent, il y a aussi ceux qui souffrent de plus en plus. Même si on ne peut pas comparer la crise actuelle avec celle de 29. On n'a pas encore les grandes marches de la faim. On n'a pas des milliers d'entreprises qui s'effondrent. C'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que la souffrance est réelle. Et je crois que, en définitive, le point de départ a été sans doute le recours trop fréquent et mal contrôlé à l'endettement. Et dans les années 70, certains économistes avaient effectivement attiré l'attention sur le danger. Et certains ont même écrit un livre dont personne ne parle aujourd'hui, mais que j'entends indiquer, « L'économie de l'endettement ». Et ces deux économistes, sans doute pas suffisamment célèbres, ont eu raison avant tout le monde, démontrer les dangers qu'il y avait d'un recours excessif au crédit. Aujourd'hui, je crois, nous en sommes les victimes. Reste que pour nous, dans ce contexte international, dont je viens de rappeler quelques effets, il y a l'euro. Alors, la crise de l'euro n'est qu'un des aspects de cette crise actuelle. Et, ben, c'est lié. Ça commence par quelques difficultés de pays qui ont adhéré, peut-être de manière un peu imprudente, à cette unité de compte devenue monnaie commune. Mais moi, je m'interroge toujours sur cette idée, au moins saugrenue, d'avoir une monnaie unique pour un certain nombre de pays, tout en leur gardant, en leur assurant, évidemment, la liberté économique, la liberté budgétaire, je dirais, et la souveraineté qui est la leur. Généralement, c'est du moins ce qu'on apprenait en histoire et en économie, la monnaie est le reflet d'une situation nationale. Et là, on a voulu mettre ensemble des nations pour une monnaie unique, et sans qu'on connaisse bien les règles. Alors, c'est vrai qu'on indiquait qu'il ne fallait pas que les budgets nationaux ne varient, enfin, se limite à un déficit de 3% environ. La réalité, c'est que chaque pays étant souverain, chacun a pu s'endetter, chacun a pu développer le déficit budgétaire dont aujourd'hui on voit les ravages, sans que, évidemment, d'un point de vue communautaire, on ait trouvé la riposte adéquate. Et aujourd'hui, on voit bien des bourses nationales qui sont aux abois, des banques qu'il faut sauver, et on le fait de manière parfois discutable, des dettes souveraines colossales. Et comment peut-on aujourd'hui imaginer que ces dettes ne soient pas remboursées ? Et dire qu'on ne veut pas rembourser ces dettes, ça veut dire qu'on déclare une banqueroute pour un État. Et enfin, en même temps, sans que les institutions ou les instances dites européennes, la Banque Centrale Européenne, le Fonds de Stabilité, aient la totale liberté, et surtout les moyens, de répondre à tous les besoins qui éclatent en même temps. Et on voit donc une véritable impasse qui me semble aujourd'hui se dessiner. C'est est-ce que la solidarité européenne sera suffisamment forte face à cette crise-là? Est-ce qu'on ne va pas vers un éclatement même de l'Europe? Je n'en sais rien. Est-ce que la stabilité politique de l'Europe dans ses institutions sera maintenue? Est-ce que les demandes de retour à un protectionnisme, que l'on peut comprendre à chaud, ne vont pas mettre un terme à la construction européenne? Est-ce qu'on ne va pas repartir dans une longue récession? C'est-à-dire, au-delà de la crise ponctuelle et momentanée, est-ce qu'on ne va pas assister progressivement, est-ce qu'on ne va pas s'enfermer dans une récession durable, avec un chômage durable qui est déjà lourd, mais qui pourrait s'aggraver, avec des difficultés donc d'investissement? Voilà, disons, des réflexions que suscite la crise actuelle, étant bien entendu que comment lire dans le marc de café aujourd'hui, je crois que ça va être au moment de, puisque nous sommes en période déjà préélectorale, au moment de cette élection, que les grandes analyses, que le courage des hommes politiques en compétition apparaîtra ou n'apparaîtra pas.
Henri Moisé, est-ce que vous avez quelques conseils de lecture à nous donner?
Oui. Alors là, c'est de l'histoire, c'est plus facile que de prévoir l'avenir. Je recommande alors sur cette compréhension à la fois du développement économique et des crises, un livre édité au Seuil, Histoire du capitalisme de 1500 à nos jours, de Michel Béot, dans la collection Point. Un livre plus modeste, mais tout à fait intéressant pour qui veut s'intéresser à la notion de crise économique. C'est un que sais-je, un petit peu ancien, mais qui est toujours d'actualité par les ouvertures, les éclairages qu'il propose. Les crises économiques de l'économiste Maurice Flamand et Jeanne Singer-Querel. Et enfin, un autre livre d'un historien, dont c'est pas de l'économie spéculative, intellectuellement spéculative, ce sont des faits qui sont narrés. Les crises économiques du XXe siècle par l'historien Jacques Néret chez Armand Collin, dans la collection Cursus.
Et le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, là, sur les deux économistes qui avaient prévu...
C'est un ouvrage un petit peu ancien... C'est l'économie de l'endettement par Lévi Galona et Marek.
Merci beaucoup, Henri Moisé.
Au revoir et
au revoir.
À la prochaine fois.
À la prochaine fois.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.